Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville, de la ville au quartier, voici une conférence de Pierre Ourmat de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée dans le cadre de l'Université du temps libre de Bayonne dans les années 2000. Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville, de la ville au quartier, voici la première partie de la conférence de Pierre Ourmat.
J'ai voulu par conséquent vous présenter un aperçu, une vue sommaire de l'histoire de notre très cher et vieux quartier de Saint-Esprit. Et je retrouve parmi vous d'ailleurs d'anciens camarades de ce quartier de Saint-Esprit. Pour commencer, je me contenterai, j'ai hésité à le faire parce qu'il n'y a pas de document cartographique sur la période du début. Et avant même de passer la première carte en introduction, je me contenterai de rappeler que vous savez tous que sur la rive nord de l'Adour a grandi un faubourg de Cap de Pont, c'était le pont Saint-Esprit, pont de bois, jusqu'en 1843. Il a duré de 1120-25 à 1843 comme pont de bois. Et ce faubourg de Cap de Pont n'a cessé évidemment de grandir, de se développer. Et c'est ce que je vais vous présenter avec essentiellement quelques cartes qui, j'espère, auront été judicieusement choisies. La première que je présente, celle en introduction, j'ai déjà dit que j'avais hésité à vous la présenter parce qu'elle intéresse avant tout la ville de Bayonne. Et c'est un des plans les plus célèbres dans l'iconographie et la cartographie de notre ville, de l'histoire de notre ville. Nous avons ce magnifique plan d'Hérard de Bar-le-Duc, fortificateur venu à Bayonne en 1599, et qui représente le faubourg de Saint-Esprit au-delà du pont de bois par cette sorte de bifurcation, non pas une place carrée comme on la connaît plus tard, mais si je présente ce document, c'est tout simplement pour vous rappeler qu'à l'origine, évidemment, nous avions là essentiellement des terres non urbanisées de prairies avec un premier moulin, puisque les moulins à marée ont été nombreux sur les bords de l'Adour, que ce soit rive nord, que ce soit rive sud. Mais comme la carte ne mérite pas d'autres commentaires, je passe rapidement aux documents intéressants le XVIIe siècle. La première carte que j'ai choisie parmi l'incontournable Blaye de Gex, historien militaire de Bayonne, c'est celle-ci, la vue de Bayonne en 1600, telle qu'elle est vue par l'historien Blaye de Gex. Et là, pour la première fois, apparaît parfaitement ce faubourg de Cap de Pont avec cette double disposition de l'habitat, à savoir premièrement le long de la rampe de Montbec et deuxièmement le long de la rue Sainte-Catherine. Et nous avons là par conséquent une urbanisation qui se fait autour d'une butte, d'une avancée d'un relief. Ce relief, il faut le dire tout de suite, se présente sous la forme premièrement de la butte dite aujourd'hui du fort, stade de la Baronne, etc. Ici, à ce moment-là, c'était la butte dite de Saint-Bernard ou de Saint-Jean. Et la deuxième butte était celle-ci, la butte de Castelnau, où va s'installer la citadelle, où va construire la citadelle, de Castelnau, dite encore de Saint-Louis. Saint-Louis, on pense que c'est pour le roi de France, Castelnau venant d'un bois situé qui porte son nom au nord de la citadelle. Saint-Jean, c'est très certainement la chapelle Saint-Jean des Saint-Jean de Jérusalem, nous en parlerons tout à l'heure, et Saint-Bernard, c'était Saint-Jean ou Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'est évidemment, tout ceci rappelle le quartier de Saint-Bernard et le chemin de Saint-Bernard qui se dirige vers l'abbaye cistercienne de Saint-Bernard. Donc ce premier document donne bien cette image de faubourg de tête de pont. Vous remarquerez que déjà et dès 1600 existe dans cette place cet esprit, mais tout simplement la fontaine de Saint-Esprit, et à ce moment-là, les eaux s'écoulaient directement et en superficie, en surface, vers l'Adour, sous forme d'un canal, pour exutoire un canal exutoire de la fontaine. Je vous remarquerai qu'un premier quadrilatère commence à se constituer par des constructions à partir de la collégiale, parce que nous sommes 1600 déjà collégiale depuis 1483, et nous avons là par conséquent une première place qui se détermine en fonction d'une première urbanisation. Bon. Voilà la première image que je voulais montrer pour situer le très vieux Saint-Esprit, et quand je parle personnellement du vieux Saint-Esprit, il s'agit fondamentalement rue Maubec, rue Sainte-Catherine, quartier de la Collégiale et de Sainte-Ursule plus tard, parce que nous sommes en 1600 et les Ursulines ne sont pas encore installées à Saint-Esprit. Avec cette vue dans l'esprit, je voudrais rappeler très rapidement quelques traits fondamentaux du plus vieux Saint-Esprit. À savoir que l'histoire de ce qui fut par conséquent le bourg de Saint-Esprit a donné lieu à un problème fondamental pendant des siècles, dès le Moyen-Âge jusqu'en 1789, à savoir qui avait autorité sur ce bourg ou faubourg. Était-ce la ville? Était-ce les Albrets venus du nord, le Seignan? Était-ce à partir de 1483 le chapitre de la collégiale de Saint-Esprit? La ville de Bayonne a toujours prétendu être maîtresse sur les terres de Saint-Esprit. Et prétendait être maîtresse et des personnes, disait-elle, et des biens. La ville a revendiqué par conséquent la juridiction et plus particulièrement prétendait être maître des rives de la Dour. Il y avait là quelques possibilités de revendication parce que la ville de Bayonne avait pendant des siècles exercé sa juridiction sur les rives de la Dour depuis Ourgave près de Port-de-Lanne jusqu'à l'embouchure, que ce soit l'embouchure à Cabreton, la poutre de Cabreton, que ce soit l'embouchure à Vieux-Boucau. Et lorsque l'embouchure de Vieux-Boucau n'existera plus, que Louis de Foix aura fait son Bouconneuf en 1578, eh bien la ville prétendra conserver son autorité, sa juridiction sur les rives de l'ancien Adour, jusqu'à Vieux-Boucau, jusqu'à Cabreton et jusqu'à Ourgave. Tout ceci pour rappeler les prétentions de ce qu'on a qualifié parfois d'impérialisme bayonnais sur les rives de la Dour, mais ce n'est pas un fait très original. De nombreuses villes sont dans ce cas, au bord de fleuve évidemment. Dès le Moyen-Âge, Bayonne a eu ses prétentions combattues par les Albrets, puissante famille du Nord, et qui était baron de Seignan. Et l'on voit dès le Moyen-Âge, 12e ou 13e siècle, on se rend compte que dès ce moment-là, des conflits surgissent entre Bayonne, la puissante ville sous domination anglaise, qui a des rapports privilégiés avec le roi d'Angleterre, et d'autre part, le baron d'Albret, qui est baron de Seignan. Ces conflits apparaissent dès le 13e siècle. Et l'on a des documents, des lettres du roi d'Angleterre qui déclarent que Bayonne a raison et elle doit avoir sa juridiction sur ce que l'on appelle à ce moment-là intentionnellement le faubourg de Saint-Esprit. Qui dit faubourg dit banlieue dépendante de la ville, et le faubourg de Saint-Esprit est considéré par la ville de Bayonne comme exactement le faubourg de Tarride, le faubourg de Saint-Léon et le faubourg de Mousserolles ou Mousserolles. Ces faubourgs bayonnais, je vous le parenthèse ici, seront appelés à être des faubourgs particulièrement et densément peuplés pendant le Moyen-Âge. Froissart s'est toujours extasié sur l'importance des faubourgs de Bayonne. Et on pense que la population des faubourgs faisait bien le total celle de la ville intramuros. Ces faubourgs ont été appelés à disparaître pour des raisons militaires. À partir du début 16e siècle, on commence à démolir les fortifications, les pré-fortifications des faubourgs, les couvents, les constructions privées, Et cela va durer pendant près de 2 siècles, parce qu'en 1680, au temps de Vauban, eh bien, on verra bien qu'il y a encore des choses à démolir dans le faubourg de Tari, le faubourg de Saint-Lan et autres. Tout ceci pour dire que la ville considérait que Saint-Esprit était le seul faubourg qui lui restait des 4 faubourgs qui entouraient la place forte jusqu'au XVIe siècle. Lorsque, en 1451, Bayonne va être assiégée par les armées, entre guillemets, françaises, de Dunois, du duc d'Alba, etc. Il est évident que l'installation du sire d'Albret sur la rive nord de Bayonne et la conquête de Bayonne par le sire d'Albret, Dunois et autres armées du moment, eh bien cela va favoriser les prétentions des Albrets à maintenir ou à établir leur juridiction sur Saint-Esprit. D'autant plus, disait-il, que Saint-Esprit n'était qu'une partie de la paroisse de Saint-Étienne d'Arrive-Labour. Je passe sur le débat sur Labour-Ladour. Et par conséquent, Saint-Étienne-Arrive-Labour, qui appartenait également au diocèse de Dax, tout cela, disaient les Albrets et barons de Seignan, nous appartient par conséquent et montre bien que notre juridiction doit s'établir sur le bourg de Saint-Esprit. Alors eux-mêmes ne disaient pas faubourg, ils prétendaient que c'était le bourg de Saint-Esprit, l'Est Bayonne. Donc il y a quel est le problème fondamental qui s'est posé pendant tout l'Ancien Régime, du Moyen-Âge à l'Ancien Régime, à savoir à qui appartient cette juridiction, et au début le conflit était entre Bayonne, puissance, urbaine, etc. Et deuxièmement, les Albrets, barons de Seignan. Quand on dit Seignan et Gosse. Le pays de Gosse avait apporté autant d'énergie à réclamer la juridiction sur Bayonne que le faisait le Seignan. Un élément nouveau va apparaître en 1483 exactement, lorsque Louis XI, venu sur la frontière, nous sommes à la fin du XVe siècle, pour régler un conflit entre Castille, Navarre et Aragon, est reçu par la ville de Bayonne, lui accorde pas mal de privilèges, et Louis XI décide dès 1463 à créer une collégiale dans le faubourg de Saint-Esprit. Cette collégiale, il va la créer dans un ancien prieuré qui existait là, dans le faubourg Saint-Esprit, qui existait également avec Saint-Jean de Jérusalem, qui existait depuis le XIIe et XIIIe siècle, et se mettant au service des pèlerins, commerçants et voyageurs qui devaient franchir l'Adour. Et c'est en 1483 que par les lettres patentes, l'ancien prieuré de Saint-Esprit devient collégial. Et qui dit collégial dit chapitre de chanoine. Chapitre de 12 ou 13 chanoines à Saint-Esprit. Alors évidemment, la création de ce chapitre s'est accompagnée de la part de Louis XI, et il faisait cela au moment de sa mort, où il était enclin à accroître encore ses dons qu'il faisait aux églises et chapelle, eh bien ces dons faits par le roi Louis XI vont comprendre d'une part des revenus, il accorde aux nouveaux chanoines de Saint-Esprit d'importants revenus, et il accorde deuxièmement aussi une certaine juridiction pour le chapitre sur le bourg de Saint-Esprit. Le résultat a été que des villes comme Bayonne, Dax, Saint-Sevé, c'est un tollé général, ont protesté de façon véhémente auprès du roi pour dire qu'on leur enlevait des revenus au profit d'un chapitre. Et puis deuxièmement, il y a eu des protestations particulières de la ville de Bayonne pour dire « Vous accordez une certaine juridiction à cet esprit alors que cette juridiction nous appartient. » Résultat, à partir de la fin du XVe siècle, la situation va se compliquer sur le plan de la juridiction à cet esprit, puisqu'il est revendiqué par les Bayonnais, qu'il est revendiqué par les Albrets et le Seignan, et que maintenant il est revendiqué aussi par le chapitre de la cathédrale. Alors l'histoire évidemment devient d'une complication, d'une ambiguïté totale, et on pourrait faire à cet égard plusieurs conférences sur les rivalités entre cette triple juridiction qui n'a cessé d'alimenter une histoire particulièrement mouvementée. Parce qu'au moment, par exemple, je prends une date, bon, en 1618 par exemple, mais on voit le chapitre collégial, obtenir gain de cause et à ce moment-là s'empresser de faire ficher en terre les fauches patibulaires, de faire ficher en terre le pilori et de dire que cette terre est la nôtre et nous devons exercer notre autorité sur le bourg de Saint-Esprit. Ce que fera Albrecht quelque temps après. Il y a eu quand même des accords qui interviennent pendant les trois siècles entre les trois puissances, disons-nous, concurrentes. Un accord survenu en 1584 voit la vente par le futur Henri IV des droits de juridiction sur Saint-Étienne d'Arribe-Labourg. 10 ans après, c'est le chapitre de la collégiale qui vend ses droits à la ville de Bayonne. Et on peut croire à ce moment-là que le problème est définitivement résolu et que Saint-Esprit est vraiment le faubourg et que Bayonne a une autorité directe sur ce faubourg. Il n'en est rien, parce que 10 ans après, 20 ans après, de nouveaux procès surgissent, le Parlement de Bordeaux intervient, le Conseil d'État royal intervient, et tout cela pour dire parfois c'est la juridiction de la ville qui doit s'exercer, et d'autres fois c'est la juridiction pour le chapitre, beaucoup moins en faveur des Albrecht. Bon, voilà ce qui caractérise essentiellement cette évolution pendant ces siècles d'anciens régimes. Mais avant de passer aux autres points, je vais montrer la troisième carte. Alors celle-ci, c'était 1600, le point de départ. Et nous allons avoir maintenant une deuxième carte du faubourg Saint-Esprit. Alors la date, c'est 1650, je dirais, milieu du 17e siècle. Milieu du 17e siècle. Alors vous voyez que là, pour la précision de marquer le grand pont de Saint-Esprit sur la Loure. Vous remarquerez que la place Cap de Pont, la place Saint-Esprit, tête de pont, se précise encore davantage d'une façon plus nette avec sa disposition en carré. Bon, la place. Que se maintiennent toujours la rue Maubec et la rue Sainte-Catherine. Que ce qui est important dans la topographie de ce faubourg de Saint-Esprit, c'est également la présence, encore, on l'a vu sur la première carte, d'un étang, d'un moulin situé ici, qui a porté plusieurs noms dus au nom des propriétaires, la Croix, Corrège, etc. À ne pas confondre avec ce que certains ont connu encore de l'étang Boyer qui se trouve plus en amont sur la Loure. Ça, c'est le premier étang qui va être remblayé, transformé en terre d'habitation dès le début du 19e. Vous remarquerez cette carte que les Ursulines sont désormais installées en arrière de la collégiale. Les Ursulines ici, couvent, très beau couvent, qui a eu quelques difficultés à s'installer à Saint-Esprit, qui n'a pas pu s'installer à Bayonne, parce que de l'opposition de l'échevinage qui disait qu'il y avait assez de couvents dans la ville intramuros, et ils sont allés s'installer dans Saint-Esprit. Les Ursulines, dans la collégiale ici, avait désormais son chapitre, et puis nous avons ici l'hôpital Saint-Jean. Une légère erreur, ce n'est pas l'hôpital Saint-Jean ici, ceci c'est le placement de la chapelle Saint-Jean. L'hôpital Saint-Jean était situé en face de la chapelle de l'autre côté de la rue Maubec. Donc vous voyez par conséquent que dans ce faubourg de Saint-Esprit, ou ce bourg de Saint-Esprit, les Bayonnes, eh bien l'empreinte religieuse est importante également, comme elle l'était dans la ville de Bayonne. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle. Vous remarquerez aussi, nous sommes vers 1650, que les eaux s'écoulent à ciel ouvert de la fontaine vers la Doubre. Et vous remarquerez enfin qu'en aval, les premières constructions apparaissent le long du quai, qui sera beaucoup plus tard, et aujourd'hui le quai de l'Esseps, qui à ce moment-là était le quai de son nom très ancien de Lipos, avec en arrière Bégogne, et ces noms de Lipos et surtout Bégogne rappellent les tentatives faites par les jésuites pour s'installer à Saint-Esprit, comme l'avait fait à Bayonne. Ils ont échoué et à Bayonne et à Saint-Esprit, pour des raisons de manque de place, mais aussi pour des raisons de suspicion à l'égard d'une certaine autorité de leur part, en leur prêtant des exigences inadmissibles. Bon, voilà par conséquent pour le milieu du XVIIe siècle. Le premier fait nouveau qui va apparaître va nous être présenté par la carte qui va suivre. Nous sommes là en 1850, 1680-85, ce sont les dates de l'arrivée à Bayonne du très célèbre fortificateur, le maréchal de Vauban. Et nous avons là la carte qui fait état, on peut la baisser, on peut la faire pour éliminer la vide. On peut regarder aussi. Et vous avez ici de la citadelle qui a été construite en 1682-85. Vous avez, autre fait intéressant, les constructions qui commencent à se multiplier le long du chemin de Saint-Bernard. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ait supprimé certains noms anciens après Lipons et d'Ortaguiette, etc. Il y a ensuite ici, bon, comme avant les Ursulines, il y a la Collégiale, il y a bon Saint-Jean par ici, et vous avez les hauteurs de Saint-Bernard que l'on commence à appeler du Fort Saint-Bernard. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que avant la citadelle de Castelnau, devenue citadelle de Saint-Esprit, eh bien, il y avait des installations militaires, essentiellement en bois, qu'on appelait pompeusement du terme de fort, qui avaient été construits au début du XVIIe siècle, au temps du danger espagnol. Et il y avait là le fort Saint-Louis à Castelnau et le fort Saint-Bernard ou Saint-Jean, qui va laisser à cette butte le nom de fort. Et ce sera plus tard le fort dont nous parlerons, selon le temps, j'espère, au XIXe ou XXe siècle. Voilà la présentation. Le fait de gros, c'est évidemment l'apparition de cette citadelle qui fait partie de l'ensemble défensif de la place de Bayonne, qui en constitue la pièce maîtresse, dont Vauban était très satisfait et disait toujours que très certainement c'était la citadelle qui offrait le plus d'avantages parmi toutes les citadelles, je ne disais pas en France, mais en Europe. Il était très satisfait de cette construction. Il est évident qu'elle commandait l'ensemble de la place, puisqu'elle est située à quelques 50 mètres de hauteur. Et vous voyez les noms des différents bastions. Mais je suis obligé de passer assez rapidement. La construction de la citadelle a eu deux effets essentiels pour l'évolution d'une partie du bourg Rive-Nord. D'une part, il a fallu, avant de construire, aplanir considérablement le sommet de la hauteur de Castelnau. Il y a des phrases d'ailleurs de Vauban, on dit « remplissez les creux, arasez les sommets ». Et il y a une topographie très accidentée d'autrefois qui a disparu pour faire place à quelque chose d'aplani sur lequel s'est élevée la citadelle de Saint-Esprit. La deuxième conséquence, c'est qu'il a fallu évidemment exproprier pas mal de propriétaires qui avaient leur terrain à l'emplacement actuel de la citadelle et autour de la citadelle. Et là, on trouve le nom de certains bourgeois bayonnais, comme l'espèce de Huron, était propriétaire encore le couvent des Ursulines qui avait des propriétés sur le retour de Castelnau. L'évêque de Dax également avait des propriétés et des digues sur ces terres de la retour de Castelnau. Enfin, tout cela, évidemment, a disparu pour faire place à cet élément essentiel de la fortification bayonnaise au XVIIe siècle. Cette présentation me permet d'ajouter et de faire une simple remarque sur le fait que là, nous sommes à la fin du XVIIe siècle et qu'avec la construction de la citadelle, un autre fait a marqué, dans cette vue d'ensemble de l'histoire de Saint-Esprit, et a marqué profondément et de façon originale l'histoire de ce que les gens appellent le bourg dans d'autres faubourgs, c'est l'installation de la communauté juive. Alors, elle est bien embarrassée pour dire quels ont été les débuts, concrètement parlant, de l'installation de la communauté juive à Saint-Esprit. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été autorisés à s'installer en France pour faire du commerce, et les lettres patentes disaient qu'ils étaient plus aptes que les Français, que les Rhénicaux à faire du commerce, 1550. Ensuite, on trouve quelques documents où l'on parle non pas de Portugais, de marchands portugais, ni de nouveaux chrétiens, mais d'Égyptanons, que certains, et certains y ont vu, les premiers membres de la communauté juive, qui ont semé quelques troubles, fin 16e, quelques qui ne leur étaient pas imputables, parce qu'on cherchait à les expulser. Et l'installation apparaît quand même comme suffisamment marquée dès le début du 17e siècle, comme l'était à ce moment-là Perora, de Basse-Clarence et autres. Alors, très rapidement, je me contenterai de dire que cette installation de la communauté des marchands portugais, à un moment donné c'était nouveau chrétien, puis marchands portugais, puis ensuite on a dit juifs, et ensuite on dira plutôt israélites au 19e. Mais cette installation a apporté évidemment au bourg de Saint-Esprit un élément de vitalité, et sur le plan démographique et sur le plan économique. Sur le plan démographique se pose quand même un problème, à savoir que le nombre des juifs du Saint-Esprit est assez mal connu, mais toujours se situe aux alentours d'un chiffre relativement stable qui est 1000, 1200, 1300. Et cela sur, alors quant à ce qui concerne la population du bourg et du faubourg, début 18e, on avance parfois le chiffre de 1500, 2000, mais il semble bien que la communauté de la nation juive au 18e siècle reste quand même une minorité dans la population de Saint-Esprit, que l'on mesure à peu près ou au tiers ou au quart, à peu près. Mais la réussite économique de cette communauté va apparaître dans le fait que d'une part, ils vont devenir propriétaires de maisons, et d'autre part, ils vont construire des maisons et participent à l'essor urbain du bourg de Saint-Esprit au 18e siècle. C'est un élément important dans l'histoire du bourg, et j'ajouterai de la ville de Bayonne, parce que la communauté juive installée à Saint-Esprit, évidemment, sur le plan de la pratique du commerce dans la ville proche de Bayonne, était assez mal vue des négociants bayonnais, lesquels étaient échevins pour la plupart d'entre eux. Et les 10 échevins ont pris de nombreuses ordonnances pour empêcher les membres de la communauté juive de faire du commerce. Et en particulier, on a cherché à leur interdire la pratique du commerce de détail. On a voulu leur réserver le commerce de gros par balle dans le port de Bayonne. On a essayé aussi de leur interdire la fabrication du chocolat. On n'a pas de preuves disant que ce sont vraiment les juifs qui ont amené la fabrication du chocolat, mais il y a de fortes présomptions, parce qu'on sait qu'ils connaissaient la chose et qu'ils également pratiquaient la consommation du chocolat boisson. Et ce qui est certain, c'est qu'ils étaient les principaux fabriqueurs, disait-on, de chocolat, au fin 17e siècle et début 18e, et qu'on a cherché par diverses ordonnances à leur interdire cette fabrication du chocolat par une méthode bien simple, ce qui se pratiquait au temps de l'Ancien Régime, pour interdire à certains de pratiquer tel commerce ou tel artisanat ou telle fabrication. On s'empresse de former une corporation, laquelle corporation reçoit le monopole de la production. Les chocolatiers de religion catholique ont tenté de faire une corporation, ils sont arrivés en 1766, laquelle corporation disait, pour fabriquer le chocolat, il faut être membre de notre corporation. La dite corporation a un seul patron, doit respecter des pratiques religieuses, ce qui élimine les fabricants juifs, évidemment, et tout ceci a duré quelques 6 à 7 ans à Bayonne. Parce que très heureusement pour les Israélites, la création de la corporation des chocolatiers de religion catholique, ne venait qu'à un temps où les corporations étaient mal vues, et du pouvoir en particulier.
Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville, de la ville au quartier, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Pierre Hourmat de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée dans les années 2000 dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne. La semaine prochaine sur notre antenne, même heure, même jour et même heure, vous pourrez suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Hourmat.